Téléchargez l'appli RMC.
Pendant l'Euro de foot en Allemagne, RMC se dédouble sur Internet et vous offre une deuxième radio.
RMC 100% Euro avec Winamax. Pour écouter tous les matchs de la Coupe d'Europe des Nations en intégralité.
RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024. Vous écoutez
RMC.
RMC.
On n'est pas une équipe qui a forcément beaucoup de bagarres, donc il va falloir être plus malin, plus intelligent.
On n'a pas fait ce qu'il fallait, on n'a pas fait le boulot ce soir et on a tendu la joue pour se faire fesser.
C'est la goutte d'eau qui met le feu aux poudres, si je puis dire.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h03, nous sommes là jusqu'à minuit en effet sur RMC et sur la chaîne YouTube de l'After en direct, bien sûr. Daniel Riolo est là, Florent Gautreau également, François Vignol nous rejoint. Bonsoir François.
Bonsoir Gilbert.
François, responsable du pôle enquête dans le groupe M6 et le bouquin PSG confidentiel chez Robert Laffont, avec toutes les affaires récentes liées au club parisien. Le sous-titre du bouquin: argent politique et barbouzerie, l'histoire secrète du club parisien. Alors nous, dans l'After, évidemment, on a évoqué en long, en large, en travers toutes les récentes affaires, les liens avec la politique, les liens avec la police,
et vous les
etc.
connaissez bien.
Et on les connaît bien. Mais c'est quand même intéressant parce que le bouquin est écrit avec Laurent Valdiguier. Vous êtes des enquêteurs dans de nombreux domaines, et pas uniquement que dans le sport, et principalement pas dans le sport d'ailleurs.
Alors, sport.
Voilà. Donc c'est intéressant d'avoir votre vision à vous, de ce que vous avez réussi à tirer comme fil à droite à gauche. Comment est-ce que vous voyez le club? Comment vous voyez les liens avec les politiques? Donc en ça, le livre est intéressant. Quel a été votre objectif de départ?
Bah, en fait, en réfléchissant à un sujet avec Laurent il y a maintenant 2 ans, 1 an et demi, en regardant la presse et en vous écoutant, on s'est rendu compte qu'il se passait toujours quelque chose au PSG, que les journalistes qui suivaient ce club n'étaient jamais au chômage technique, et on s'est surtout rendu compte que le PSG, c'était plus que du foot finalement. C'était de la géopolitique. Depuis ce déjeuner du 23 novembre 2010 à l'Élysée avec Nicolas Sarkozy et celui qui sera le futur héritier qui va sceller la Coupe du Monde et aussi le PSG version Qatari, c'est aussi de l'économie. Un club aujourd'hui valorisé à 4,2 milliards d'euros. En cela, le PSG a gagné sa Champions League en marketing, bien sûr. Et puis, c'était aussi des affaires, et que un nouveau match, cette fois-ci, on en parlera tout à l'heure, s'est engagé, mais cette fois-ci sur le terrain judiciaire avec une myriade d'affaires.
Mais pourquoi, en fait, des journalistes qui ne sont pas du sport, pourquoi ça vous a intéressé, ce sujet, finalement? Qu'est-ce qui a été le déclencheur pour dire, tiens, on va dérouler le fil, on va essayer de voir tout ce que nous, on peut raconter avec vos réseaux à vous, qui sont pas forcément ceux que nous, on utilise dans le sport pour avoir ces informations?
Bah, on s'est rendu compte que l'année dernière, ça commençait à émulsionner au niveau des enquêtes. Beaucoup d'enquêtes. Alors, ça allait d'affaires qui étaient d'affaires prud'homales, c'est-à-dire des petites mains, c'est-à-dire l'ex-majordome de Nasser El Khelaifi qui disait « j'ai pas de contrat, j'ai une OQTF, une obligation de quitter le territoire français ». On est tombé totalement du placard, on est allé le voir. Il y avait des affaires beaucoup plus importantes qui étaient des affaires de ce qu'on a appelé les barbouzeries. Vous le connaissez, l'ancien responsable des supporters qui a fait, en tout cas qui est soupçonné aujourd'hui par la justice, on va être très prudent toute la soirée, de faire de ce qu'on appelle de la tricoche, c'est-à-dire d'aller chercher des informations à gauche, à droite, sur des fichiers policiers qui parfois n'avaient aucun rapport avec le PSG, c'est ce qu'on l'accuse, pour les distribuer aux uns et aux autres. En tout cas, c'est l'accusation qui est faite. Et puis, alors là, on passe du compte des mille et une nuits à un roman d'espionnage de John le Carré, puisque il y a une clé USB qui va se balader entre Paris et les Émirats Arabes Unis, une clé qui contiendrait des informations, on en parlera peut-être tout à l'heure, concernant la Coupe du Monde, et aussi des informations
de la Coupe du Monde.
Exactement.
Alors, on sait qu'il n'y a rien sur cette clé.
Non, alors il y a juste des vidéos dites intimes.
Au mieux, il y a une paire de fesses.
Voilà. Alors, justement, on peut peut-être en parler maintenant.
Allons-y. Vous voulez parler?
Allons-y.
Ouais, non, mais il se trouve que cette personne qui est un lobbyiste est accusée par les services qataris d'avoir voulu le monnayer au grand ennemi sur les Émirats Arabes Unis. il se trouve que, et on le raconte dans le chapitre, il y a une vérification des Émirats Arabes Unis, que ce que dit Daniel est assez juste. On leur a dit, vous pouvez repartir avec votre clé USB, on n'en a pas besoin, on n'y croit pas. Mais derrière ça, il y a un deuxième volet, c'est qu'il y a des condamnations à mort.
Et oui. Hein,
3 condamnations à mort. Tout à l'heure, on parlait de l'ex-majordome. Il y a quelqu'un qui a présenté ce lobbyiste aux Émirats Arabes Unis. Et aujourd'hui, on les a rencontrés, ces 3 personnes.
Bon, moi, j'ai pas attaqué ce lobbyiste?
Non.
Pas encore?
Pas encore. Mais,
je vais surveiller la attaque à tour de bras. Ouais. Hein. Moi, j'en suis à l'appel avec lui. On a gagné en première instance. Ouais. Donc, ça va, on avance. Mais c'est marrant, c'est une coïncidence. J'ai reçu les nouvelles de mon avocate aujourd'hui pour me dire que ça suivait son cours. Alors, le 30 mai, la réponse définitive. J'ai bon espoir que l'appel confirme la première instance.
Je crois qu'il a essoré beaucoup d'avocats.
Je sais pas qui lui paye ses avocats, mais.
Quand on parle, juste pour être précis, parce que c'est vrai que ça peut paraître dingue, que cette affaire aboutisse à des condamnations à mort prononcées au Qatar. Hein.
Tout en France. Hein.
Exactement. Alors on sait qu'au Qatar, il y a des condamnations à mort, mais qui en général ne sont pas suivies d'effets. C'est-à-dire que ça se transforme souvent en prison à vie. Enfin, tout de même, symboliquement, ça semble totalement dingue que pour des affaires comme ça, d'espionnage, de chantage, on en vienne là quand même. C'est fou.
Bah oui, surtout qu'ils l'ont reçu un peu par la poste, ils l'ont su comme ça un peu au hasard, et aujourd'hui, ils ne prennent plus l'avion, hein, tout simplement. Vous le disiez, souvent c'est commué, hein, en peine, en réclusion perpétuelle. Bon, enfin, il y a quand même cette crainte d'être arrêté dans un aéroport, et veuillez nous suivre. Hein. Hicham Karmoussi raconte, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, qu'il aurait fait...
Ça, c'est l'ancien majordome.
L'ancien majordome de Nasser El Khalafi, qu'il aurait fait l'objet d'une tentative d'enlèvement, en tout cas c'est sa plainte, hein, aujourd'hui, et il fait attention, quand on le voit, il fait attention, il donne des rendez-vous au dernier moment, dans des endroits, alors est-ce que c'est de la paranoïa ou pas, c'est pas à moi de juger, mais en tout cas, il y a une crainte.
Alors, il y a des personnages centraux, évidemment, il y a Nasser El Khalafi, on va en reparler, il y a Nicolas Sarkozy, on va en reparler, juste une question quand même sur les liens avec la police. Parce que vous deux, Laurent et toi, François, vous travaillez beaucoup avec la police, parce que vous voyez, quand on fait les enquêtes, est-ce que quand il y a une affaire touchant au foot et au PSG, est-ce que vous sentez que la police, comme par hasard, est tout de suite plus attentive et puis trouve ça un peu plus sexy qu'une affaire lambda? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? On a parfois le sentiment aussi que il y a des fois des petites choses qui sont montées en épingle parce que ça plaît aussi à la police de s'occuper de ces affaires-là.
Alors, il y a peut-être des procédures qu'on évoquera tout à l'heure qui vont se dégonfler, peut-être. Hein. Ça, je peux pas vous le dire. Ensuite, c'est ce qu'on appelle dans le jargon de la justice des affaires signalées. C'est des affaires qui remontent tout de suite. Hein, à Vendôme, au ministère de la Justice. Pourquoi? Parce que c'est le PSG. Pourquoi? Parce qu'il y a des stars. Pour toutes ces raisons-là, même sur des faits qui peuvent paraître anodins, ça va remonter tout de suite. Et Gilbert, vous avez raison. Effectivement, on va être assez diligent sur un certain nombre de procédures qui, peut-être, au final, ne donneront strictement rien.
C'est important de le dire.
Ça intéresse tellement la police que, et le PSG en particulier, qu'il y a même le fameux policier qui bossait à la DGSI, qui était supporter du Paris Saint-Germain.
Vrai supporter.
Et qui a trouvé ça bien, en tout cas, pour sa vie, de quitter son taf pour venir bosser au PSG. Et c'est lui qui a fait les... Je sais pas comment vous appelez ça en termes techniques.
Malik Tillman.
Voilà, c'est lui qui s'est mis au service avec ses vieilles relations dans la police pour enquêter sur un tel.
Est-ce qu'on sait, juste sur ça, pour rebondir, est-ce qu'on sait, du côté du PSG, très clairement, si Nasser était le commanditaire ou au courant, suffisamment au courant
même
de
pas,
ça?
Même pas, c'était le service de com'.
Oui, c'était le service de com, on y arrivera avec l'armée numérique, hein, puisqu'à un moment donné, le PSG a été attaqué. On est en pleine période de blocus 2017-2021 pour le Qatar, hein, qui est entouré par des pays qui l'aiment pas forcément. Et donc, ils ont beaucoup de hacking au PSG. Et donc, ils vont essayer de riposter par un certain nombre de raids numériques sur des attaques qui vont parfois toucher, vous vous rappelez de ce supporter qui avait été giflé par Neymar, on va vouloir savoir comment il s'appelle, où il habite, et sur un site ami on va mettre son nom. Donc c'est cette personne qu'on a rencontrée aussi, Malik Nightliman. Alors lui, il dit, j'ai fait mon taf, je l'ai fait vraiment de manière très très scrupuleuse. On dit que j'ai fait la tricoche, pas du tout. En fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il travaillait. Alors, peut-être qu'il a eu un peu de zèle pour montrer qu'il connaît les dossiers. Est-ce que Nasser était au courant ou pas? Je ne suis pas certain du tout.
En fait,
du tout.
il y a un point commun à tout ça, à tous les personnages du livre, à tous les personnages qui entourent le club depuis des années maintenant, c'est que, en gros, tout le monde veut se rapprocher du veau d'or.
Oui, c'est vrai.
En fait, moi, je trouve qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Je suis vraiment peut-être le plus dur avec Nasser depuis des années, mais il n'est pas plus coupable que tous les autres. En fait, sa seule faute, et elle est importante quand on est président, c'est qu'il n'est pas à la hauteur. N'oublions jamais que c'est quand même à la base un prof de tennis qui se retrouve propulsé à un poste beaucoup trop important pour lui et que des postes très importants, il en a une tonne et qu'il fait une tonne de choses. Que c'est pas un bon président, mais parce que de toute façon, il ne se consacre pas qu'à ça. Il se consacre à mille autres choses. Et il a autour de lui des gens, en fait, c'est simple, parce que l'image, elle est facile à comprendre, parce qu'il y a cette chose qui s'appelle la corbeille au Parc des Princes. Mm-hmm. C'est une espèce de carré or.
De place, hein.
Une espèce de carré or.
On vous propose, voilà. Vous n'achetez pas.
Et en fait, c'est comme si tous les gens autour, tous les personnages de votre livre, tous ceux qu'on a cités mille fois dans cette émission, le majordome, Carmouchi, comme s'ils voulaient tous s'approcher de ce carré d'or. Tous. Même le lobbyiste, Taïeb, en fait, son histoire, c'est ça, finalement. C'est à quel moment je peux croquer un truc. Il y a trop... en fait, ça pète tellement de blé partout que tout le monde se dit il y a peut-être un truc à croquer quelque part. Mmh. Et ils outrepassent tous leur fonction. Le DIRCOM, comment il s'appelait ton ami là ?
Jean-Marcel Ribes.
Voilà, Jean-Marcel Ribes.
bien nommé pour travailler avec le Qatar.
Il en faisait beaucoup plus que ce qu'on lui demandait. L'armée numérique, quand il met ça en place,
c'est pour se dire,
je vais me faire bien voir du patron, je vais faire ça, je vais faire en sorte
que... L'armée numérique qui s'est aussi attaquée à certains joueurs, dont Mbappé.
C'est qu'est-ce que je peux faire de plus que plus de plus pour me faire bien voir du patron, pour préserver les intérêts. Et ils sont tous à essayer de l'entourer. Et tous, et ils font... Nasser, c'est le premier cercle, le deuxième cercle, le troisième cercle. Comment, quand je suis dans le troisième cercle, je peux rentrer dans le deuxième? Comment, quand je suis dans le deuxième? L'important, c'est près d'être près du soleil. Et puis lui, comme dans sa culture, parce que les Qataris fonctionnent comme ça, comme dans leur culture, c'est un peu d'affect donné, avec un billet en même temps. Je te rince d'un côté, je te caresse, je te mets une petite caresse, et puis si tu m'as trahi,
dans
tu
le
dégages.
Code pénal, ça s'appelle la corruption, en tout cas, parfois.
Et ça donne cet univers qui est complètement fou, qui, à mon sens, fait que d'un côté, le PSG, comme tu l'as dit très justement, a réussi sa Ligue des Champions en termes de business, et qu'en termes de sport, je n'arrive pas à voir comment ils peuvent y arriver, parce que dans le sport, en revanche, dans le foot, quand tu mets trop de gens autour des décisions, quand c'est le dernier qui a parlé qui a raison, quand t'as besoin d'avoir un directeur sportif au Qatar, un à Paris, un entraîneur à qui tu donnes des pouvoirs, mais tu l'en enlèves quand même toujours un petit peu. Tu peux pas y arriver. Non. Tu peux pas y arriver parce que c'est pas rectiligne le process de décision. Et moi je vois pas comment ils peuvent s'en sortir. Mais c'est passionnant à étudier. Je pense que c'est kiffé.
C'est un sujet de sociologie presque.
Sur Nasser Al Khelaïfi. De votre œil à tous les deux, un peu extérieur au monde du foot, quelle image vous avez du personnage aujourd'hui? Vous vous dites, c'est comme a dit Daniel, ou bien c'est finalement peut-être un grand naïf, un mec qui se rend pas compte, ou alors il est responsable de tout. Enfin, comment est-ce que vous voyez ça?
D'abord, on a refait un peu sa vie. Hein. Vous la connaissiez. Bon, on a découvert effectivement qu'il doit son poste aujourd'hui par cette petite balle jaune, en classement obscur, hein, 995e ATP à l'époque. Mais c'est là où il rencontre en fait l'émir. C'est sur ce terrain de tennis où il va commencer à lui murmurer à l'oreille. Et son destin, il va être associé à celui de l'émir parce que, eh ben, ils vont échanger un certain nombre de choses, un certain nombre de secrets. C'est peut-être aussi pour ça qu'il est toujours là aujourd'hui.
Il adore le tennis.
Il adore le tennis.
Ah ouais. Et c'est pour ça qu'il
jouait d'ailleurs avec lui.
Et pendant très longtemps, je ne sais pas s'il l'a encore dans son entourage. Ça se trouve, il va avoir un poste important un jour au PSG. Qui sait? C'est comment il s'appelait? Gaston Gaudio.
Oui,
qui est tout le temps vainqueur de Roland en 2004, qui est tout le temps fourré avec lui, le kiffe machin. Tout ça.
Ton pote quoi.
Peut-être qu'il va lui filer un poste au PSG. Hein. Je ne sais pas s'il a bien foutu.
Il est monté comme ça. Il est devenu le patron de Bing Sport. Hein. Et puis, il fallait quelqu'un. Il fallait quelqu'un comme président à l'époque. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était très compliqué. Il n'y avait personne. Je crois qu'on a, c'était Benoît Rousseau à l'époque. Vous allez me corriger. En tout cas, il est assez obscur, assez anonyme. Il va un peu prendre la lumière quand même. Il va s'entourer de Leonardo, bon, qui connaît un peu le métier. Et puis, effectivement, vous le disiez tout à l'heure, souvent absent. énormément d'activités, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Qatar, on le voit pas beaucoup. Ouais. Et donc, bah c'est compliqué quand il est pas là, parce qu'effectivement,
pour sortir un peu du bouquin, ouais, c'est peut-être l'erreur, une erreur fondamentale des Qataris, c'est de pas avoir trouvé quelqu'un qui incarnait le PSG pour finalement être mais l'homme lige.
Mais le truc, c'est que
pas forcément quelqu'un qui venait du Qatar.
Tu dois le savoir, François. Ben, le truc, c'est que en fait, ils ne peuvent pas imaginer fonctionner sans que ce soit quelqu'un de chez eux qui soit le patron. C'est ça le souci, c'est qu'ils veulent bien. Et Leonardo, la première idée, elle était parfaite parce que c'est un mec qui connaissait
tout. Tu veux dire Leonardo président, tu veux dire
Non mais quand ils arrivent,
ouais,
Leonardo,
délégué,
Ancelotti comme duo, mais c'est difficile de faire.
Moi,
mieux,
j'ai souvent dit, dès les débuts, ils avaient trouvé la solution.
C'était sans formidable. Le
savoir. En fait, ils ont trouvé la solution sans le savoir, mais cette solution, elle s'appuyait sur des hommes qui ne se laissent pas compter en termes de management.
Et voilà.
C'est-à-dire que Ancelotti, dans son vestiaire, c'est Patouche. Leonardo, toutes les autres prérogatives, c'est Patouche. Et quand Ancelotti, après un violent match à Reims, où ils se sont dit, des gens ont murmuré à l'oreille de Nasser. Mais tu sais qu'il n'est pas intouchable,
tu sais
hein,
qu'il murmurait à l'époque, comme il n'avait pas l'expérience, c'est les médias. Rappelle-toi comment les médias avaient détruit Ancelotti. Ouais. C'était le PSG a longtemps été, au cours de toutes ces années, détesté, mais rarement comme au début. Au début,
c'était
massacre. Ancelotti est passé pour un on l'a fait passer pour un guignol en France. Les émissions comme le CFC, où officie tiens d'ailleurs, faudra en parler, là, mes amis Paganelli, les nouveaux amis Paganelli Antonetti, dans cette émission-là, il s'est fait massacrer Ancelotti à l'époque.
Oui, mais et que Nasser ait cédé.
Il y avait également Sarkozy. Et là, c'est moi, ça. Je pense que c'est la partie dont il faut qu'on parle.
Alors, on va faire une pause.
Parce que le rôle de Sarkozy, il est immense. Ah, parce que c'est lui qui est allé après leur dire, il faut mettre un entraîneur français, comme ça, vous aurez les médias. Laurent Blanc, il arrive.
Juste pour finir là-dessus, sur cette partie Nasser, c'est que, sans le savoir ou en le sachant, parce qu'ils avaient écouté, ils avaient trouvé la bonne solution, enfin je pense, parce que la suite l'a montré, notamment pour Ancelotti, ce qui est dingue, parce que la fameuse patience dont il faut savoir faire preuve en foot, bah ça on leur avait pas expliqué, et eux, ça, la patience, ils connaissent pas. Mais c'est aussi quand même le côté influençable du bonhomme. Parce que quand on lui a dit faut dégager Ancelotti, à aucun moment il a dit non, c'est bon, on va continuer comme ça.
Six mois avant, il savait pas qui c'était.
Problème de culture, je pense.
Dans un instant, justement, autre personnage central dans toute cette histoire, Nicolas Sarkozy, c'est dans le bouquin PSG confidentiel de Laurent Valdiguier et François Vignol. Si vous êtes même, je sais pas, supporter d'autres clubs et vous vous intéressez pas forcément au PSG, ça en dit long sur la gestion d'un club. C'est comme un roman en fait, hein, parce que ça.
On a voulu faire comme un polar, parce que je pense aussi que c'est un polar cette histoire.
Oui, il y a quand même une particularité, c'est que sur le PSG et sur ces années-là, il y a 1000 livres qui sont écrits sur ces enquêtes. On a beaucoup fait. Et un autre club où il se passe énormément de choses et qui est tout aussi passionnant, il n'y a jamais de livre écrit, c'est l'OM. Il y a très peu de livres écrits sur l'OM et tout ce qui s'y passe. Très peu.
C'est vrai. Bon, bah, je vais y réfléchir alors.
Alors que franchement, il y a de quoi faire.
Et c'est plus facile à écrire, enfin facile, pour un Parisien que pour un Marseillais, parce qu'on a déjà eu des gens qui nous ont dit, moi, j'y touche pas.
C'est vrai.
Oui.
Bon. Allez, à tout de suite dans Marseille.
Téléchargez l'appli RMC.
Pendant l'Euro de foot en Allemagne, RMC se dédouble sur Internet et vous offre une deuxième radio.
RMC 100% Euro avec Winamax. Pour écouter tous les matchs de la Coupe d'Europe des Nations en intégralité.
RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024.
RMC, jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h23, Daniel Riolo, Florent Gautreau sont là, François Vignol avec nous, co-auteur avec Laurent Valdiguier de PSG Confidentiel, bouquin d'enquête, effectivement qui se lit comme un polar chez Robert Laffont. Autre personnage central, on l'a dit avant la pub, depuis le début de l'histoire, Nicolas Sarkozy. Parce que finalement, c'est lui qui fait venir, faut le rappeler, qui fait venir le Qatar.
Grand
supporter du PSG. Il connaît le nom des remplaçants, des joueurs, des femmes, des joueurs. Il a un collab, c'est pas du chiquet.
Lui, c'est pas du chiquet. Sur la vérité, c'est pas du chiquet. Et dans la corbeille, il a la place à droite de Nasser.
Toujours. Alors, si vous voulez calculer votre indice de notoriété dans la corbeille, plus vous êtes proche du prince, ou plus vous êtes proche de Nasser, surtout, eh bien, plus vous êtes haut, et c'est le cas de Nicolas Sarkozy.
Il y a
un autre qui pourrait être proche du buffet.
Il y a une anecdote dans le bouquin qui est assez drôle. C'est des gens qui sont souvent invités puis qui se font jeter. Oui, par exemple, notre ancien qui était consultant chez nous, qui est très sympa, Amaury Leveau, le pauvre, c'est un nageur. Mais un jour, il a reçu un coup de fil, c'est dans le bouquin.
On lui dit, c'est Beyoncé à ta place.
Excuse-nous, il y a Beyoncé qui vient et tu dégages.
Oui, parce qu'il y a une personne, oui, parce qu'il y a une personne au protocole qui s'occupe d'inviter à chaque match. C'est de mettre, et il lui arrive très souvent d'inviter des gens qui n'en ont rien à serrer du foot. Mais juste pour que ça brille, pour que ça fasse de l'image. Et effectivement, en fonction de qui vient, bah, t'es dégagé ou t'es invité. Et l'année dernière, il y a eu une période où ils trouvaient plus grand monde.
Ah bon.
Et je peux t'assurer qu'ils sont descendus très, très bas dans le protocole et dans le vedettariat. Ah,
c'est là,
j'aurais pu avoir une chance d'y aller.
Alors, sache que d'abord, je n'ai jamais été appelé et que deux, je n'y mettrai jamais les pieds. Le jour où on me voit dans la tribune présidentielle au Parc des Princes ou dans la corbeille, je peux t'assurer que je démissionne dans
la corbeille. Donc, c'est pas la place d'un journaliste, on va dire.
Exactement. On appelle aussi la corbeille Philippe Séguin, parce qu'il y allait souvent et c'était un vrai fan
du PSG. Ah oui, lui, c'est un balade de foot.
Séguin, bien sûr.
Balade de foot.
Donc oui, le rôle de Nicolas Sarkozy dans toutes ces affaires-là, est-ce qu'il est toujours plus ou moins là, dans l'ombre, à tirer les ficelles
Tout le temps. Il donne des conseils. Il donne des conseils sur l'équipe. Il donne des conseils sur les choix stratégiques à faire. Nicolas Sarkozy, depuis un peu après la création du PSG, mais depuis les années 80, il est là. Il est là à tous les matchs. Et il se trouve il est président le 23 novembre 2010 et qu'il a invité à sa table, le futur émir, le prince héritier, Tamim Al-Thani, qui est là. Il y a son secrétaire général très puissant, Claude Guéant, à l'époque. Et puis, ils vont inviter Michel Platini. Alors, Michel Platini, lui, il croit qu'il va voir juste Nicolas Sarkozy pour parler de foot. Et puis, il voit que il y a le futur émir. Et là, il va avoir un petit travail d'influence. C'est-à-dire qu'on va travailler un peu Michel Platini pour lui dire, écoute, cette candidature qui paraissait totalement farfelue il y a quelques années, elle est peut-être intéressante. Nicolas Sarkozy l'a dit dans le livre, il a dit, je pense qu'un pays arabe doit avoir la Coupe du Monde, ça doit pas jouer simplement entre les Européens et les Américains, il faut que ce pays-là, et là c'est le Qatar.
Ça partait d'un bon sentiment, on va dire.
Oui,
mais alors, après il y a le chemin pour y arriver.
Alors il y a deux choses, ça part d'un bon sentiment, simplement aujourd'hui la justice se demande s'il n'y a pas eu des contreparties.
Tout à fait.
Et en train d'étudier ça. Et
la justice étudie depuis 20 ans maintenant, et elle va rien trouver du tout parce qu'il n'y en a pas. Donc au bout d'un moment,
Par rapport à Platini, tu veux dire ?
Oui, par rapport à
Platini. Non, moi je suis pas nommé, mais il y a des preuves sur le fait que le vote à la FIFA, il y a eu de la corruption.
Il y a un certain nombre de
fraudes. Il y a des membres de la FIFA qui ont été condamnés.
Il y a eu pour toutes les Coupes du Monde. Ça là-dessus, moi en revanche, c'est pas là-dessus que moi ils me sidèrent le plus, le Qatar. Ils ont fait, de toute façon, on leur avait dit en 2008, voilà comment ça se passe, faites la même chose. Ils ont fait la même chose en mettant plus de sous.
Et lors de ce déjeuner, en fait, le deal dans le deal, c'est que Nicolas Sarkozy est très au courant de la situation compliquée du PSG à l'époque, colonie capitale. C'est son copain Sébastien Bazin qui en est le patron. Ils ont une histoire marrante, les drôles, les deux, assez tragique d'ailleurs, puisque lors de l'attaque par Human Bomb, on est assez vieux pour s'en rappeler, c'était à Neuilly.
La maternelle de Neuilly.
Eric Schmitt, maternelle de Neuilly en 93, mai 93, je pense. Parmi les petites filles dans la maternelle, il y a la fille de Sébastien Bazin. Et Nicolas Sarkozy, vous vous rappelez, va exfiltrer, pas le seul, mais les enfants. Et de là va naître cette amitié indéfectible entre Sébastien Bazin et Nicolas Sarkozy. Et Sébastien Bazin, lors de ce déjeuner, il n'y était pas, mais il lui a soufflé à l'oreille, il a dit, ce serait bien quand même qu'on mette dans la corbeille de la mariée, sur cette Coupe du Monde, dont les votes auront lieu 9 jours plus tard, eh bien qu'on mette le PSG. PSG est à l'agonie à l'époque. Et on va commencer à discuter avec l'émir de la possibilité. Alors lui, l'émir est un vrai footeux, très foot anglais, première ligue. À l'époque, le marché est un peu saturé. Et va commencer à infuser cette idée que le PSG, avec sa tour Eiffel, avec ce marketing, avec cette idée de stratégie, de soft power pour cette grande Coupe du Monde, c'est quand même pas mal. 40 millions au départ, et puis finalement on finit à 70 millions. Fin juin, c'est signé. Le Qatar à le PSG aura bientôt sa Coupe du Monde. Sacre de sa stratégie, puisque les deux meilleurs employés du mois lors de cette finale seront Messi et Mbappé. Employés du PSG, ils pouvaient pas rêver mieux l'émir comme stratégie.
Voilà, c'est parfait, parce que pour ceux qui, les jeunes auditeurs de l'After, les récents auditeurs de l'After, là on a eu en l'espace d'une demi-heure un rappel synthétique complet de cette histoire qui est détaillée évidemment dans le bouquin de Laurent Valdiguier et François Vignol. Donc rappelons quand même, pour rester juste sur un chiffre pour conclure, achat du PSG par le Qatar 70 millions aujourd'hui valorisé à plus de 4 milliards.
Ouais,
valorisé
4,
par eux-mêmes. Donc c'est pas c'est virtuel. Bah, enfin bon,
oui, mais par eux-mêmes comme un actionnaire minoritaire est entré et a mis, et a mis les sous en fonction de ça.
Ouais.
Ça veut dire que
d'où leur volonté d'acheter d'ailleurs le Parc des Princes, qui est un autre sujet, on n'aura pas le temps ce soir, mais vous rajoutez de l'actif, hein, comme d'autres grands clubs étrangers, hein, et forcément vous augmentez la valorisation.
PSG confidentiel chez Robert Laffont, donc si c'est sorti, hein, ça y est.
C'est sorti, ouais, très trois semaines.
Donc vous le retrouvez partout, comme nous, en privilégiant leur reçu au bureau. Je savais pas s'il était déjà dans les librairies. Merci de nous l'avoir envoyé d'ailleurs.
Je vous en prie.
Alors que moi, tu vois, je l'ai pas reçu. Alors que François, je connais depuis longtemps, c'est croisé à France Télévisions.
Je l'envoie demain. Par
ah bon, t'étais aussi sur les motos à poursuivre les candidats à la présidentielle.
Non, il était beaucoup plus rapide que nous à l'époque.
Merci d'être venu dans l'after, François.
C'est moi qui vous remercie.
À très bientôt. Nous, on repasse au foot de maintenant et de demain avec l'Euro au programme. Liste anglaise, liste portugaise, Pochettino qui quitte Chelsea. La finale de l'Europa League demain soir, c'est le programme Les Drôles de l'âme tout de suite.
Téléchargez l'appli RMC.
Pendant l'Euro de foot en Allemagne, RMC se dédouble sur Internet et vous offre une deuxième radio.
RMC 100% Euro avec Winamax. Pour écouter tous les matchs de la Coupe d'Europe des Nations en intégralité.
RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024.
RMC, jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h32, Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là, et les Drôles de l'âme nous rejoignent. Et si on se remettait un vieux jingle Drôles de l'âme à l'ancienne? On a tendance à l'oublier celui-là.
Bah oui, c'est l'historique.
C'est l'historique.
J'aime bien celui-là.
Il a 18 ans. Il est là tous les lundis, je le rappelle quand même. Mais nous, c'est vrai que finalement,
la croisière.
C'est rare qu'on ait les quatre avec nous.
La croisière, ça use ?
Bah non,
ça muse.
Qu'est-ce qu'il raconte ?
Mais la croisière, ça use. C'est marrant.
Ah, ça use. Ah oui.
Non, mais il est vrai que le thème musical de la croisière, ça muse, est cousin de celui-ci.
C'est la même époque, donc ça devait être le même compositeur qui faisait les mêmes génériques des séries, non ?
Oui, d'ailleurs, ça me rappelle. Ouais, t'as raison. Je cherche le nom du. À mon avis, t'as raison, c'est un compositeur assez connu. Je vais chercher.
Il y en a un qui ne devait pas regarder La Croisière s'amuse, c'est pas son style, je pense. C'est Polo Breitner.
Alors, ça, j'en suis pas sûr. Quand il était petit, Polo, à mon avis, il a croqué de ce genre de séries.
La petite maison dans la prairie, il a regardé.
Je pense qu'il a croqué ce genre de choses.
Bonsoir, mon cher Gilbert. Bonsoir, tout le monde. Honnêtement, La Croisière et La petite maison dans la prairie, c'était pas trop ça.
Voilà.
Ouais, mais tu regardais quoi alors?
Les drôles de dames, évidemment. Les drôles de dames pour faire la façade,
évidemment. Amical, autre.
Alors, ouais, mais ça, c'est culte, donc ça devrait même être réservé, en fait. Ça devrait pas devenir une culture de masse. Ça devrait être resté pour les gens qui veulent regarder juste ces épisodes, parce que rappelons que c'est un bide complet aux États-Unis, ce qui montre une fois de plus que les Américains ne comprennent rien.
Et que, mais... et que dans cette série, il n'y a qu'une seule saison.
Je sais plus si c'est une ou deux.
Ah voilà. Si, c'est une seule. Il y a que des épisodes
uniques.
Ouais,
c'est en français ou ils en ont mis deux, c'est ça? Je sais plus. Ça fait longtemps qu'il est parmi.
Non.
Mais c'est assez mythique, quoi.
Polo, bonsoir. Il y en a un qui, à mon avis, était plus Shérif fais-moi peur. C'est Fred Hermel.
Ah non. Hola, chicos.
Ah bon, d'accord.
Amical, mais votre.
Daisy?
Ah ouais, parce que non, Daisy, t'étais pas.
Daisy,
t'étais
moi, j'étais short en jean. J'étais très short en jean.
Oui,
et le short en jean. T'étais pas sur le short en jean, toi.
J'étais très Starsky Hutch, Guilly Montuyo.
Ah, Starsky, ouais.
Starsky Hutch, c'est mythique. Mais c'est amicalement vote, c'était exceptionnel.
Moi, je t'aurais dit Fred un peu plus tard, mais j'aurais plutôt vu Miami Vice.
Non, pas trop.
C'est Michael Mann,
c'est
mythique.
Non, bah, amical. Et chapeau melon et bottes de cuir.
Oui.
Ouais. Avec Peur d'être.
C'est là qu'on voit que vous êtes vraiment vieux, les gars.
Ouais.
Ah, il y en a un qui est beaucoup plus jeune que vous, du coup, j'ai pas de série à lui soumettre.
Ah, si,
c'est Johan Crochet.
Moi, je suis pas né en 1920, les gars, donc désolé, vos séries.
Les Brigades du Tigre.
Toi, c'est Beverly Hills, toi.
Moi, c'était l'Agence Touriste.
L'Agence Touriste,
c'est vieux quand même.
Ouais, c'était de la rediff, hein, parce que je me souviens aussi de rediff de chapeau melon et bottes de cuir.
Super. Ah, aussi. Et en fait, l'homme qui valait 3 milliards, vous avez pas kiffé, le petit?
J'adore.
Ah, qu'est-ce que c'était nul, ça.
Et
la génération Crochet, c'est
fou. Expliquer.
Comment ils font
l'effet spécial
de l'Imager pour sauter au-dessus du mur? Ils l'ont fait à l'envers, non?
Ouais, non, mais il y a un truc génial. C'est que pour montrer qu'il allait très vite, il faisait au ralenti.
Bah oui, tout à fait.
Exceptionnel. Et puis il y avait Super
Jimmy. Le générique était génial.
Super Jimmy aussi.
Ah, Super Jimmy.
Qui a été refait aussi, après l'accident de parachute.
Bon, Julien Laurence n'est pas encore là. Peut-être qu'il est allé lui aussi résoudre des problèmes.
Super Jimmy, son bon, c'était d'écouter à travers les murs. Elle avait une oreille bionique.
Oui, elle avait l'oreille.
D'accord. Et donc, en fait, l'histoire, c'est que.
Bon, on va s'arrêter là parce qu'on a plein de trucs à faire, les gars. Donc,
C'est un peu ringard. C'était un type qui avait été refait bioniquement après avoir un astronaute après un accident.
Exact.
Et Super Jimmy, elle a fait un accident de parachute.
Il y avait MacGyver aussi, sinon.
Pitié, pas ça.
les envahisseurs, pour les plus anciens.
Ah ouais,
magnifique.
Très bien. Ça.
David Vincent, on les a vus.
Totalement flippant, d'ailleurs.
Série complètement conservatrice. D'ailleurs, les extraterrestres, d'ailleurs, lorsqu'ils mouraient, étaient rouges, évidemment, parce que c'est une série anti-communiste, pour faire plaisir à Daniel. Et il faut se rappeler que c'est une...
C'est pour ça que ça me plaisait déjà.
Et quand ils vivaient, c'était des écolos, ils étaient verts.
Bah non, mais en fait, c'était ça exactement. Et ça
c'est vrai, il a raison, Polo.
Ça se passait toujours dans les petits villages, justement, pour montrer la désindustrialisation. Et c'était une série extrêmement conservatrice, en fait.
Demain soir, finale de l'Europa League. Les gars, désolé de vous ramener à votre triste réalité et plus à vos souvenirs. Polo.
Sinon, le prisonnier, si tu veux.
Ah, mais il ne s'arrêtera jamais. Bah non, mais c'est rien.
Ouais, je t'ai dit qu'en fait, il en regardait plein.
La plus grande série de tous les
temps. Demain soir, c'est le grand soir pour les Leverkusen.
Pourquoi ils l'ont déjà gagné en 1988?
Alors, mais le grand soir pour tu vois, une saison en apothéose, un truc de dingue.
Ouais, une série d'invaincus. Ouais.
Ah voilà, tout ça, comme thème.
Ah oui. Moi je trouve ça extraordinaire, cette histoire de série invaincue. Je pense que c'est plus intéressant de faire le triplé plus que d'être invaincu, mais ça c'est comme ça.
Donc, je pense qu'au point où ils en sont, ils veulent tout prendre maintenant.
Quand tu es à deux matchs
de tout prendre.
Bah bien sûr, mais on leur dit, vous avez le championnat, vous préférez le championnat, l'Europa League et la Coupe d'Allemagne, ou vous préférez être invaincu? Je dis non, moi je préfère les trois titres, quoi.
Mais là, moi je pense qu'ils sont en passe de tout ramasser et que ça peut devenir quelque chose. Alors c'est marrant quand même, c'est le paradoxe pour un club qui était le loser des losers de faire quelque chose qu'aucun autre club allemand, même les plus grands, n'a jamais fait.
Ouais, enfin, faut aussi relativiser le fait qu'ils sont en Europa League et pas en Ligue des Champions. C'est-à-dire que cette série invaincue par rapport à Arsenal ou à la Juve, à l'époque, c'est pas tout à fait la même chose, moi, je trouve. Et puis, surtout, on s'arrête juste aux résultats et on regarde pas toujours les contenus des rencontres parce que, comme ils marquent beaucoup de buts durant les arrêts de jeu et même à partir de la 80e minute, on a l'impression que tout est parfait. Alors, quand tu vas chercher des matchs nuls, c'est aussi parce que ça s'est pas bien passé avant. Et c'est un peu le reproche.
Tu veux dire que c'est devenu un peu un gag de regarder
France, c'est pas surprenant que ce soit un running gag, ce genre de truc. Mais si tu veux, en Allemagne, c'est quand même vécu parfois par certains journalistes qui ont reproché à Xabi Alonso de continuer systématiquement à faire du turnover alors qu'il y a quand même des matchs très importants. D'ailleurs, demain, c'est le gardien remplaçant Kovar qui a joué tous les matchs d'Europa League qui sera titulaire. Donc moi, ça me dérangeait un petit peu quand même, quoi. Mais c'est comme ça. Et à chaque fois qu'il a été en difficulté...
Je sais pas, ça doit être la mode, ces histoires de turnover poussées à l'extrême comme ça.
Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est, si tu veux, c'est même pas pour faire reposer des joueurs, c'est qu'il y a parfois des matchs très importants où il mettait son équipe bis, ou parfois il faisait une équipe à prime avec 5 changements, etc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a des variations tactiques.
Attends, juste, après je te laisserai poser, mais pour ce point du turnover... La logique et le résultat, pour le coup, et après on parlera du contenu, lui donne raison dans le sens où c'est un turnover pour des raisons physiques. Aujourd'hui, c'est une donnée de partage de temps de temps de jeu. Tu vois, c'est ni plus ni moins qu'un. C'est pas du tout un mépris pour les adversaires ou le fait de négliger la compétition.
On peut le voir ça comme ça. Le problème, c'est qu'un joueur comme Boniface est apte depuis plusieurs semaines maintenant. Il ne joue quasiment plus, juste sur les dernières journées. Donc, ça serait intéressant que lui dise non. Moi, j'aimerais bien l'entendre en conférence de presse, après la rencontre évidemment, s'il la remporte demain, de dire non, Boniface est titulaire parce que je l'ai préparé depuis quelques semaines pour l'amener à 100% lors de la finale d'Europa League contre l'Atalanta. Je ne suis pas persuadé qu'il soit titulaire demain. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que au départ, il jouait toujours avec un attaquant. Il a même parfois joué avec Schick et Boniface. Et demain, il l'a fait déjà plusieurs fois cette saison, il risque de jouer avec un faux neuf. On sait que Wirtz sera titulaire demain alors qu'il avait ses problèmes de cuisse et qu'il était un peu fatigué sur la deuxième partie de saison, mais on ne sait pas s'il va jouer en meneur de jeu ou en faux neuf, justement.
Il y en a un qui nous rejoint maintenant, qui lui, j'en suis sûr, était totalement et à 100% alerte à Malibu.
Oui,
c'est Julien bon Laurence. Julien, bonsoir.
Salut Gilbert, salut à tous.
Salut. Ou K2000 peut-être.
K2000, plus qu'alerte à Malibu, ouais.
D'accord.
K2000.
T'es plus bagnole, quoi. T'es plus bagnole que
Michael Knight, quoi.
Ouais. K2000, Michael j'étais Knight. Déjà un peu grand. Ceux qui regardaient ça, pour moi, c'est vraiment
les David Hasselhoff, non.
Ah, non, t'as la voiture qui parle là et tout. Oh là là, qu'est-ce que c'était ridicule.
Hasselhoff était dans les deux.
Mais MacGyver, c'était mon idole absolue.
Ouais. La coupe au mulet.
Bah ouais, surtout tout ce qu'il savait faire, il pouvait, tu vois, il était.
Et ouais, c'était le Chris Wallace des bricoleurs.
Exact.
Bon alors, l'Atalanta, avant qu'on donne la parole à Julien pour parler de Pochettino, de la liste anglaise, l'Atalanta qui vient quoi dans ses petits souliers, Johan?
Oui et non. Bon, il y a tout le jeu des favoris. Bon, ça m'intéresse pas trop, mais effectivement, le Leverkusen, champion d'Allemagne et invaincu cette saison, a quand même une longueur d'avance dans l'exécution du projet. Après, l'Atalanta a sorti l'OM, l'Atalanta a sorti Liverpool, l'Atalanta a sorti des belles équipes, a fait une très belle phase de poule, a fait une très belle Serie A. Il y a eu le petit accro en finale de Coupe d'Italie contre la Juve et où ils n'ont pas réussi à se sortir de ce qu'avait prévu Max Allegri et de cette défense acharnée. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura sans doute plus d'espace contre Leverkusen, mais qu'ils auront aussi beaucoup plus de tâches défensives à effectuer contre la Juve d'Allegri. Donc, ils y vont pas en tant que défaitistes, clairement pas, parce qu'ils ont aussi montré cette saison que face à des adversaires bien supérieurs, ils étaient tout à fait capables de rivaliser. Déjà sur deux matchs, alors sur un match sans doute encore plus. Il y a aussi des joueurs qui sont en pleine confiance. Vous prenez De Ketelaar, des Scamacca, ils sont totalement en pleine confiance, ils marquent des buts, ils sont bons. En plus, Gasperini a plutôt bien réussi à gérer le temps de jeu de ses joueurs. Avec des joueurs qui sortent aux alentours de la 55e, 60e, 65e, pour les joueurs qu'il veut conserver le plus frais possible pour les matchs à venir. Donc ça a été plutôt bien géré, je trouve, cette fin de saison où il jouait un peu tout. Il jouait la Coupe d'Italie, il jouait l'Europa League, il jouait la 5e place en championnat. Donc il y avait beaucoup beaucoup de choses à jouer avec un effectif qui est pas si profond que ça et qui est clairement moins profond que celui de Leverkusen. Mais attention, ça reste une très belle équipe, ça reste une équipe qui commence à avoir un peu de vécu quand même commun aussi, de vécu de match couperet également. Donc non, ils y vont pas avec les appareils photo.
Et Johan, l'histoire plaçait Leverkusen toujours dans le camp un peu loser. C'est pas complètement le cas de l'Atalanta, mais eux, ce qu'ils peuvent avoir comme étiquette qui pourrait leur coller au dos, c'est ça joue bien, mais au final, ça gagne pas. Ça fait un peu rêver les foules, c'est sympa. C'est même parfois jugé en Italie un peu prétentieux, surtout quand Gasperini parle.
Surtout l'entraîneur, ouais.
Ouais, voilà. Mais ça gagne pas. Est-ce que demain, ce serait pas un truc très important dans l'histoire de ce club qui les ferait passer dans une autre dimension et plus dans celle du petit club sympa qui donne des leçons de jeu mais qui gagne pas au final?
Alors, ça serait un truc de dingue, clairement, pour le club. Ça serait, je pense, aussi un accélérateur, comme tu viens de l'expliquer, parce que derrière, pour l'estime de soi, pour la confiance dans le projet, pour aussi motiver les joueurs à rester ou à venir, ça serait fantastique. Néanmoins, je pense que la place de l'Atalanta aujourd'hui dans le football italien n'est pas la même que la place de Leverkusen dans le football allemand. Et ce côté de petit club qui n'a rien gagné de spécial et qui perd un peu ses finales, on peut pas vraiment faire la comparaison avec Leverkusen parce que Polo me corrigera, mais je pense sincèrement que la place de Leverkusen est bien plus ancrée dans le football allemand.
Oui, ça, c'est vrai, t'as raison.
À un niveau supérieur que l'Atalanta. Donc,
pas au niveau des supporters. C'est que ça reste un petit club qui est dopé financièrement par son propriétaire. Hein. C'est pour ça qu'on le surnomme aussi le Pilon Club, le club des pilules.
Ouais, je parlais plus en termes de bon, niveau, Polo, d'ambition.
Bien sûr.
Donc, je veux dire, c'est pas un club qui est le plus aimé d'Allemagne. Et
non, du tout.
Par rapport à Schalke, Dortmund ou d'autres
clubs. Non, mais il évoquait l'importance dans l'histoire du championnat. Est-ce que
les saisons au haut niveau, l'habitude à jouer les premières places,
ça fait un quart de siècle seulement. C'est à partir des années 90 vraiment.
Ouais, mais tu vois, l'Atalanta, ça fait 8 ans.
L'Atalanta, c'est ouais. Tu vois, avant d'arriver à l'Atalanta, quand tu cites les clubs en Italie, tu vas en citer un paquet.
C'est ça. Et donc le petit discours que j'entends en Italie du style Gasperini, il est bien gentil, mais il a rien gagné. Ok, il aura peut-être un peu trop sévère. Il n'aura pas gagné de trophée, mais en fait, lui, ses trophées, c'est pas du tout ça. Ses trophées, c'est d'avoir installé l'Atalanta dans les 4 ou 5 meilleures équipes d'Europe. C'est d'avoir réussi à faire 3 finales de Coupe d'Italie. C'est d'avoir réussi à faire 1 finale de Coupe d'Europe. C'est ça, c'est trophées à lui. Et on peut pas demander aujourd'hui à Gasperini ou on peut pas évaluer Gasperini en disant Ouais, mais il a rien gagné. Pour moi, c'est pas valable. Tu pourrais le sortir pour un entraîneur, je sais pas, de la Roma, du Napoli, évidemment des trois gros clubs italiens. Mais pour l'Atalanta, tu peux pas avoir ce genre de considération là, ou alors tu as une considération totalement hors de propos et hors de portée par rapport à la place de l'Atalanta en Italie.
Voilà. Et pour concernant le Bayern, il y avait à l'époque un autre club, c'est le Bayern Werdingen, Paulo, qui a disparu.
Oui, mais c'est à partir de ça, c'est les années 80 en fait, et c'est à partir de ce moment-là que Leverkusen est monté en gamme lorsque la multinationale Bayern a arrêté de subventionner le Bayern 05 Würdingen, en effet.
C'est plus compliqué de sponsoriser une équipe de vélo, toi qui adore le cyclisme, quand tu t'appelles Bayern.
On est d'accord.
Dans un instant, Toni Kroos qui arrête sa carrière à 34 ans. On va voir si Fred Hermel est catastrophé. On va également parler de Pochettino qui quitte Chelsea, et puis la liste des Anglais, la liste des Portugais également au programme de l'After. À tout de suite.
RMC, 22h, minuit, l'After Foot.
Gilbert Bribois. Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là, les drôles de l'âme sont là. Les gars, on a avec nous un auditeur fidèle de l'After qui s'appelle David, qui est là et qui a une particularité. Salut David.
Bonsoir.
Merci d'être passé nous voir. Également abonné de la revue, autant dire un auditeur, là c'est très le haut du panier, là. C'est très très bon. Et alors toi, t'écoutes l'After, tu lis la revue de l'After, mais tu regardes jamais un match de foot.
Jamais. Depuis 2010, le foot, c'est l'After et la revue depuis.
Explique-nous, parce qu'en fait, quand tu nous as raconté ça,
c'est complètement fou.
C'est conceptuel.
Mais t'aimes le foot ou?
Ah oui, j'étais abonné au Parc pendant 9 ans, à la fin des années 90. Et puis, après.
C'est con, t'as arrêté quand ils ont commencé à enquiller les titres.
Ah non, ça marchait bien à l'époque.
Non, mais je veux dire, là, t'as une série de titres que t'as raté au stade, quoi.
Mais pourquoi tu ne regardes pas les matchs? Ça t'intéresse pas?
Non, le foot aujourd'hui, c'est fini. Ça ne m'intéresse plus beaucoup. En termes de. Enfin, l'esprit ne m'intéresse plus. Le foot business, cher à Stéphane Guy, ne me plaît plus beaucoup. En revanche, l'aspect sociologique du foot, et puis le sport en tant que tel, c'est un sport unique, le foot. Sport à peu de buts, peu de points, ça se dit souvent.
Ouais. Donc, tu écoutes les débriefs des matchs, alors?
Si, j'écoute tout. J'écoute tout. Mais et d'ailleurs, je connais le foot grâce à vous. Je ne connais pas les joueurs, il y en a que j'ai jamais vus. Depuis 10 ans, je ne regarde plus le foot. Je connais leurs talents, leurs points forts, leurs
faiblesses. Est-ce que tu es capable d'aller plus loin?
C'est fou.
C'est t'insérer dans un débat au boulot avec des mecs sur des joueurs que tu as pas vus et tu prends.
Il provoque les débats.
Non, mais tu prends l'un de nos avis sur un joueur que tu n'as donc pas vu et tu le prends comme argument.
Qu'est-ce que tu penses de Barcola? Qui a été appelé par Deschamps.
Il l'a pas vu.
Si, je l'ai vu. Enfin, j'ai entendu parler de sa coupe de cheveux, que je ne connais pas. Par curiosité, il faudrait que j'aille voir sur Internet à quoi il ressemble. Mais bon, je pense que c'est un agneau. Comme.
Ouais. Non, mais moi, je trouve ça extraordinaire d'être un
c'est un économiste.
D'être un con à l'After sans regarder les matchs, c'est génial.
Paulo dit que t'es un économiste.
T'es un économiste, hein, parce que les Yoachko, je reconnais que ça dans la profession. Les mecs n'ont jamais vu des maths, mais par contre, ils t'expliquent tous les marchés, quoi.
j'ai pas beaucoup parlé de marché pour l'instant.
Non, l'avantage de David, c'est qu'il a arrêté le foot il y a 10 ans. S'il rallumait la télé, là, cette saison, et qu'il regardait à nouveau la Juve, bah, ça n'a pas changé.
En revanche, sur l'Atalanta Bergame, en 10 ans, il s'est passé des choses.
L'Atalanta, ça me rappelle un peu Parme de mon époque, moi. C'est un peu cet esprit-là. Ouais.
D'accord.
J'ai pas connu.
Voilà. Bah écoute, David, merci d'être passé nous voir, en tout cas.
Merci à vous pour
l'invitation. C'est assez étonnant.
Avouez que c'est fascinant, les gars, non?
Ouais, c'est fascinant.
C'est fascinant, mais tu sais que j'ai croisé des gens qui, ont carrément découvert le foot avec l'After et c'est un handballeur qui me disait ça, je disais ça à Gilbert tout à l'heure en antenne, qui ne s'intéressait pas du tout au foot, qui ne regardait pas du tout le foot. Alors, lui, à ta différence, c'est que suite à l'After, il s'est mis à regarder du foot parce que ça l'a intéressé. Et il y en a d'autres qui aiment écouter l'After sans être des grands fans de foot, mais ça marche pour d'autres émissions, pour le débat. C'est-à-dire que même si tu ne connais pas le sujet, il m'arrive moi de regarder des sujets et des débats dont je ne suis pas un spécialiste. Et t'aimes à faire ton opinion toi-même ou en tout cas écouter les
uns. Par exemple, quand Daniel fait un débat sur les prénoms en t'expliquant que les prénoms courts, c'est comme les prénoms de chiens, par exemple. Ça n'a rien à voir avec le...
Non, mais d'où t'as repensé à ça?
J'ai repensé à ça.
Mais non, les prénoms courts, c'est diminutif. Souvent, c'est pas des vrais prénoms. Non, ou alors, Ben, c'est Benjamin, souvent.
Après, t'as
s'appelle Ben.
T'as la zoologie aussi avec Daniel. Les canaris sont les fils du canard. Enfin,
oui,
les petits canards.
Un autre débat.
Il y a un souci.
C'est une erreur.
Ah. Non, mais bon, ça permet de rectifier. Et donc, après, t'es meilleur en SVT.
Bon, revenons au drôle de dame. Et merci David d'être venu nous voir. Toni Kroos arrête sa carrière à 34 ans, Fred. Est-ce qu'en Espagne, on parle de gâchis ou est-ce qu'on dit chapeau l'artiste?
Ah, chapeau l'artiste. Alors, tout le monde est déçu parce que, franchement, il en a encore dans le pied, et dans les pieds et dans la tête. Mais il arrête. Mais tout le monde applaudit le fait d'arrêter. à ce niveau-là, c'est-à-dire arrêter avec une finale de Ligue des Champions, avec une Liga remportée, une Supercoupe des Champions.
Peut-être un euro, on va savoir.
Et peut-être un euro, c'est exceptionnel. Il avait toujours dit, donc ça fait 10 ans au Real, il avait toujours dit qu'il ne se traînerait pas sur un terrain. Il ne va pas aux États-Unis, il ne va pas au Qatar, il ne va pas en Arabie Saoudite du fric, il arrête. Et on compare beaucoup cet arrêt-là avec celui de Zidane en 2006.
Très curieux de savoir ce qu'il va faire maintenant à arrêter aussi brutalement sans demi-porte de sortie.
Ce genre de joueur intelligent, tu le vois entraîneur, ouais. Comme ça instinctivement.
Avec son poste et tout, c'est.
Bah oui.
Regardez Pirlo.
Mais avant de le voir dans l'après-carrière, moi je voudrais quand même dire que, à mon sens, c'est un des plus grands milieux de terrain de l'histoire du foot. 5 Ligues des Champions, champion du monde, 10 ans au Real au top niveau. Vraiment, c'est un joueur que moi j'ai toujours adoré, qui a, je pense, longtemps été sous-estimé parce que, évidemment, on met toujours en avant ceux qui marquent les buts.
Qui le laisse partir en 2014.
Ceux qui marquent les buts, ceux qui sont à la une de l'actualité, mais Toni Kroos dans une équipe, c'est un régal.
Qu'est-ce qu'on dit en Allemagne, Polo?
Bah, évidemment, c'est un peu la même chose, mais si vous voulez, le Toni Kroos a subi en Allemagne une concurrence aussi médiatique, hein, et pas forcément très, très intéressante au niveau des joueurs, c'est qu'il a souvent été comparé à Özil. Et en fait, on avait les deux, on avait Toni Kroos et Özil. Özil était le meneur de jeu, Toni Kroos a reculé. Lorsque moi, j'ai découvert vraiment Toni Kroos à deux moments, lorsqu'il avait été acheté par le Bayern Munich, donc ça remonte, je sais même plus, ça doit être 2007, quelque chose comme
2006,
ça.
2006, j'ai la s'affiche sous les yeux.
2006, c'est ça, ok.
Quand il vient de Rostock.
C'est ça, et à l'époque, on ne savait pas le montant des transferts, on savait juste qu'il avait 16 ans, c'était très très jeune, et on apprenait en fait le vrai montant du transfert, parce que ça avait été tenu secret absolument, parce qu'on disait que les sommes pour l'époque déjà étaient un peu stupéfiantes, et à chaque fois qu'il avait des résultats avec le Bayern, ben on apprenait que le Bayern avait filé 250 000 euros au Hansa, etc. Et la deuxième chose qu'on oublie souvent, c'est qu'il a été prêté 18 mois à Leverkusen, entre 2009 et 2010, et je peux vous assurer que c'est peut-être l'un des plus beaux Toni Kroos qu'on a vu sur le côté gauche à l'époque, et l'une des plus belles équipes de Leverkusen, qui était vraiment un truc assez exceptionnel. Donc il était en train d'exploser à ce moment-là. Ensuite, évidemment, il est revenu au Bayern.
Avec Joop Heynckes.
Toni Kroos, moi je...
Tu expliques, Polo, que le Bayern ait laissé partir un tel joueur en 2014?
Parce qu'il y a un double ballon d'or qui s'appelle Rummenigge, qui pense qu'il est maître du monde, et quand ils se sont... Il y en a beaucoup comme ça en Allemagne, hein, qui pensent, en fait, lorsqu'ils s'expriment, Joop Heynckes est pareil, au passage, sous ses airs extrêmement sympathiques, etc. Il ne compare les joueurs qu'en fonction de sa propre carrière. De leur propre carrière. Donc, quand tu es Rummenigge et que tu es double ballon d'or, bah, Toni Kroos, tu as du mal à dire que c'est un grand joueur. Et c'est pour ça qu'il est parti comme ça. Donc c'est pour presque rien, parce qu'il ne voulait pas lui donner à l'époque le salaire qu'il méritait.
Et Kroos, c'est aussi juste un point sur le joueur et le jeu. Ça te rappelle aussi, je le voyais encore sur cette passe magnifique là qu'il a faite en Ligue des Champions, que le foot c'est de la géométrie aussi.
Bien sûr.
C'est-à-dire que quand tu vois
intelligent.
Oui, mais quand tu vois Kroos, c'est-à-dire avant de voir but, de voir action, occasion, expected goals, tu vois juste une transversale, la gestion de la distance, la qualité de la passe qui est aujourd'hui, entre guillemets, à mon avis, différencie
le timing de cette passe.
Le timing, mais tu vois, je pense à la géométrie du terrain, à la taille, à la limite du terrain. Je vois Toni Kroos à l'échauffement, enfin, j'imagine Toni Kroos à l'échauffement, j'ai rarement vu, peut-être même jamais. Je regarde les joueurs à l'échauffement pour ça. Ceux qui étalonnent, si tu veux, tu vois le terrain. Et lui, Kroos, en dehors de ça, après, il a effectivement la vision qui fait que cette passe, tu vois, qui est parfois directe. Hein,
elle était belle, cette passe, mais il en a mis des plus belles, parce que celle-là, c'est la mer qui s'ouvre devant lui.
Peut-être, hein. Mais lui, il a vu la mer qui s'ouvre. Et si tu veux, en dehors de la vista, je trouve qu'on oublie trop souvent, et notamment sur la qualité de la transversale. Je rappelle cette anecdote, toujours c'est en Italie à l'époque, où Platini racontait que même Brio, les défenseurs, le dernier des défenseurs de la Juve, enfin, il ne faut pas le dernier des. Au sens moins bon, il travaillait tellement les transversales, il aurait pu mettre des transversales comme moi j'en mettais. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, n'importe quel défenseur pourrait mettre autant de transversales que
Toni Kroos. Alors, il faut avancer, il nous reste 2 minutes.
Toni Kroos, pour dire à quel point une carrière, ça peut être compliqué. À la fin des années 2000, pour un média qui s'appelait CFI, j'ai commenté, ça devait être le mondial des U17. Et dans cette édition-là, il y a Toni Kroos, que je découvre, gamin, le petit blond au milieu. Il m'impressionne, je le trouve très fort. Mais dans cette compétition, en très fort, et Fred va s'en souvenir très, très vite, c'est sûr, il y avait Bojan Krkić, il y avait Fran Medina, qui avait été extraordinaire, qui avait été annoncé dans les plus grands clubs. Tu te souviens de leur début de carrière.
C'est des carrières totalement.
Il y avait au Nigeria, parce que le Nigeria avait été très fort dans cette édition-là. Ils étaient très forts souvent en U17. Il y avait Makolé, Chrysanthus, un joueur comme ça. Et ces gars-là, qui étaient super forts, ils n'ont pas fait carrière. Et lui, Toni Kroos, qui était peut-être pas le plus éblouissant, je le trouvais fort, mais pas éblouissant comme les autres, ben, il a fait une carrière stratosphérique.
Apparemment, Julien Laurence, les gars, s'il vous plaît, il faut que le temps passe vite, il faut qu'on parle de la liste des 33 de Southgate, l'ami de Julien. Donné aujourd'hui, pas d'Anderson, pas de Rashford, pas de Sterling, pas de Sancho. Est-ce que, Julien, tu adhères à cette liste ou est-ce que tu crées au scandale?
Non, il y a des choses qui sont très bien dans cette liste, notamment chez les jeunes. Adam Wharton, par exemple, que je pense beaucoup d'auditeurs sont peut-être pas très familiers avec. Il est arrivé de Blackburn à Crystal Palace en janvier. Il a été très très bon en première ligue. Il s'est imposé à Crystal Palace avec Glasner. Ça a très très bien marché. Ça, j'aime bien. J'aime bien Braithwaite. Il y a 5 joueurs dans la liste des 33 qui n'ont pas une seule sélection. On retrouve aussi Kobbie Mainoo.
On prend des agneaux dans les listes.
En tout cas, dans celle-là. Parce qu'il va la couper, forcément, elle va passer de 33 à 26. Donc, parmi les 7 qui vont sauter, ça se trouve, ce sera les 5 qui n'ont pas de sélection encore. Mais moi, je trouve que c'est bien, en tout cas, pour ce groupe d'entraînement, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, qui est des nouveaux visages, qui les voit à l'entraînement, qui les essaye. Pour Rashford, il a dit qu'il y avait des joueurs qui avaient été meilleurs que lui cette saison. Il a raison. Quand un Deschamps prend Colomouani, Southgate prend pas Rashford, qui fait une mauvaise saison, alors qu'un Gordon, par exemple, de Newcastle, fait une bien meilleure saison. Il n'a pas l'expérience ou le vécu au niveau international, mais il a une meilleure saison derrière lui, et donc je trouve ça assez logique. Pour Jordan Henderson, vous savez, j'ai très peu d'estime pour lui en tant que joueur de foot, techniquement parlant, je parle pas trop dans le leadership ou l'expérience. Donc Henderson, ça me choque pas non plus. Donc voilà, c'est plutôt bien. Après, le problème, vous savez, avec le Sylvain Ripoll anglais, c'est pas trop les joueurs qu'il a sous la main, c'est comment il les fait jouer.
C'est ce qu'il en fait.
Voilà, exactement.
Le club frérot se sépare de Pochettino. Pourquoi Pochettino qui quitte les frérots?
Pourquoi vous le prenez pas du coup?
Oui.
Ouais, il va peut-être prendre Vieira, les frérots.
Et ben vous pouvez récupérer Maurice Pochette.
Toi, tu récupères Pochette à Strasbourg?
Pochettino. Je prends Valérie Ismaël.
C'est pas
un gars de chez nous.
Ça fait 10 ans que tu nous le vends, lui.
Un gars de chez nous. Voilà, pourquoi il part?
Pourquoi il part? Juste pour dire, Enzo Fernandez, qui est arrivé à Chelsea en janvier 2023, ce sera son 5e entraîneur.
Ah oui,
depuis janvier 2023, c'est quand même assez incroyable. En 18 mois, il y a eu 5 entraîneurs. Ce sera le 5e entraîneur qui va être donc choisi.
Ouais,
pourquoi il est parti? Pour plein de raisons, mais la première, c'est qu'ils sont pas du tout, ils n'étaient pas en phase avec les propriétaires, avec ce que le club voulait faire. Un exemple qui me fait assez sourire, mais qui finalement est un bon indicateur. Le club voulait amener dans son staff un entraîneur pour les coups de pied arrêtés, donc défensif et offensif, où Chelsea a pas mal de problèmes, notamment défensivement. Et Pochettino a toujours refusé en disant que ça servait à rien, qu'il en avait pas besoin. Et au club, on s'est un petit peu offusqué de ça. Alors après, on peut être d'accord ou pas, hein, c'est pas la question. Mais c'est pour montrer à quel point ils n'étaient pas du tout sur la même longueur d'onde. Et donc, même s'ils l'ont poussé un petit peu dehors, il a gentiment accepté. Il lui reste un an de contrat, il va prendre un joli chèque quand même. Son staff aussi. Je sais pas, pour sa réputation à lui, c'est pas une bonne chose, forcément, surtout après ce qui s'est passé au PSG aussi.
Ça fait un petit moment voilà. Lui que ça.
Ouais. En tout cas, ça fait un gros poste à prendre. Hein.
Ça patine, en revanche, en termes de chèque, il est bien.
Exactement. Merci les gars. Demain soir, on retrouve Johan et Polo pour la finale de l'Europa League. Évidemment, vous serez là à partir de 20h.
J'espère ne pas trop me préparer, mais j'attends une grande finale. J'espère vraiment que ça va être à la hauteur.
Ce sera demain soir.
Moi aussi, j'ai vraiment envie de.
Merci les gars, bonne soirée, à demain.
Ciao.
Est fini. On se retrouve demain à 20h, l'After Live avec la finale de la Ligue Europa en intégralité et l'After dans la foulée.
RMC, l'After Foot.